marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La radio-diffusion française vous invite à écouter
Fake News.
La démocratie américaine en souffrance.
T'as entendu ça?
D'ordinaire, même les présidents qui ont fait campagne contre Washington
profitent de cet instant pour tenir un discours rassembleur.
Ils jouent encore sur les mêmes thèmes qui l'ont fait gagner. Son message n'était pas très rassembleur, mais plutôt du genre « les masses en colère ont gagné ».
C'est un sujet très fort. C'est quelqu'un d'atypique, entouré de personnes qui sortent également de l'ordinaire. On va avoir du mal non seulement à le comprendre, mais aussi à le couvrir de manière offensive. En même temps, c'est passionnant. C'est vraiment un sujet en or.
Au New York Times, au lendemain de l'élection de Trump, les midterms ont prolongé le suspense qui règne depuis ce moment. Le président garde ses chances d'être réélu en 2020 et les démocrates leurs espérances de reprendre les commandes si du moins ils dessinent un cap. Le combat se poursuit donc, mais dans un climat de plus en plus lourd. Nous sommes entrés en effet dans une époque d'anorexie démocratique. L'expression vient d'être inventée par Jacques-Yves Bellay dans la revue Esprit. L'appétit politique nous abandonne. Ici, comme aux États-Unis d'ailleurs. Plus de la moitié des Français, pour parler de nous, pensent que ce sont les marchés financiers qui détiennent le plus de pouvoir et plus des trois quarts qu'ils en détiennent, trop et maintenant trop pour envisager de les abandonner. Dans ces conditions, si le menu est imposé, à quoi bon imaginer encore de choisir à la carte ? En même temps, une excitation de tous les instants nous gagne. Qu'aux États-Unis, Trump entretient plusieurs fois par jour sur les écrans, un peu comme l'éleveur lorsqu'il vient apporter son foin au râtelier de ses bêtes. D'un côté, l'anorexie, le politique est dévalué. De l'autre, l'attente nerveuse, la gloutonnerie, l'addiction à la comédie de la politique. On sait depuis longtemps que la démocratie par nature produit le désenchantement, mais les théoriciens du politique pouvaient encore la présenter comme une culture du débat, soucieuse des droits individuels, comme de la lutte contre les inégalités. Si une polarisation inexpiable progresse, est-ce encore possible ? Pour sauvegarder la démocratie, on demande des démocrates.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Dick Howard, bonjour.
Oui, bonjour.
Les ombres de l'Amérique, c'est votre dernier livre, de Kennedy à Trump. C'est paru chez François Bourin. Et vous y avouez une difficulté d'être qui a été la vôtre comme celle des journalistes du New York Times qu'on entendait il y a un instant. Est-ce que je comprends encore quelque chose alors que je suis armé de la théorie politique que je travaille depuis des décennies? Est-ce que j'y comprends d'autant moins que je suis un intellectuel qui fait l'aller-retour entre Paris et New York?
Est-ce que je comprends moins ou est-ce que je comprends mieux, en fait? Parce que si c'est vrai ce que vous dites, Jean Lebrun, de la démocratie qui pose question, qui est le régime un peu de toutes les incertitudes, du coup, mieux comprendre la démocratie, ce serait peut-être aussi choyer des doutes, être en proie à des interrogations. Et effectivement, je ne crois pas que ma science, entre guillemets, soit exacte, mais je crois au contraire qu'elle donne... Elle donne lieu à des tentatives d'interprétation. Et interprétation, c'est pas savoir, c'est autre chose. Et peut-être justement que le problème du New York Times, c'est que les journalistes, ou ces journalistes du moins, se sont liés par l'obligation de dire des faits. Et de ne pas aventurer dans des interprétations. Or, le processus de la démocratie, c'est justement un conflit d'interprétations, pour citer le titre d'un livre de Paul Ricoeur.
Dites-moi, je voulais, avant d'en venir à vos analyses de théoriciens de la politique, vous faire une petite théorie, pas très scientifique, on va mettre des guillemets de l'électeur. L'électeur est un ignoré, parfois, de la théorie politique. On a tendance à dire communément que l'électeur, il vote en fonction de ses intérêts.
Je ne le pense pas du tout, et je crois que c'est un problème qui est aussi vieux que l'histoire de la pensée politique. Chez Platon, par exemple, justement, les opinions, la doxa, comme disaient les Grecs, étaient disqualifiées, ne comptaient que les vérités qui étaient évidentes en elles-mêmes. Maintenant, si je délaisse mes amis les Grecs et je retrouve les Américains, ce qui me frappe et ce que je justement cherchais un peu à retracer dans ce livre de Kennedy à Trump, c'est que l'électeur, dans une première période, est considéré comme celui qui partage un consensus. Vous vous souvenez, dans les années 50-60, la gauche se plaignait justement du fait qu'il n'y avait pas de différence entre républicains et démocrates. Il y avait une sorte de mélange. Puis est advenue une deuxième période marquée un peu par la publication du grand livre de John Rawls. Et là, la théorie politique est devenue normative. Donc on ignorait un peu le citoyen lambda. On parlait de ce qui devrait être. Et puis, troisième période, à partir de la chute du mur d'une certaine manière, et c'est là où on a les néoconservateurs, et là, ce sont maintenant des passions qui entrent en jeu.
Mais vous me faites rire, parce que l'électeur, même le plus informé, est-il capable de marquer ces différences, ces temps? Je ne sais pas combien il y a d'électeurs informés. Il y a 4 millions d'abonnés au New York Times maintenant, dont 3 millions en numérique. Bon, disons qu'il y a 10 ou 20% d'électeurs informés.
Oui.
Et ce n'est pas d'ailleurs parce qu'ils sont informés et diplômés qu'ils sont exempts de passion. Hein.
Absolument pas. Mais c'est justement comment prendre en considération les passions. Si on revient aux origines de la République américaine, quand même les pères fondateurs en étaient très conscients et du coup ils ont créé une forme républicaine qui permettait en principe justement d'échanger des opinions, pas des vérités.
Alors vous connaissez les pères fondateurs. Vous vous souvenez du nom du chien d'Obama?
J'avoue que je suis incapable de répondre.
Parce qu'un certain nombre d'analystes disons qu'il y a 10 ou 20% d'électeurs informés, il y a deux fois plus d'électeurs pas du tout informés, ou alors qui associent les noms de la politique avec des images qui ne sont pas politiques. Par exemple, celle, j'y reviens, du chien d'Obama.
La nouvelle a fait le tour du monde en quelques secondes. Les Obama ont un chien, il s'appelle Beau.
Il va dormir à la Maison Blanche.
Dans votre lit ?
Non, non, pas dans mon lit.
Il l'avait promis à ses filles durant la campagne. Elles auraient un chien. Promesse tenue. Voici Beau, un chien d'eau portugais, un cadeau du sénateur Edward Kennedy. Il est encore bébé, mais déjà en pleine forme. Et visiblement, il semble beaucoup s'amuser avec le président. Toutes les télévisions américaines ont fait hier des émissions spéciales pour la présentation de Beau. Depuis plusieurs jours, tous les journalistes essayaient d'obtenir quelques informations à la Maison-Blanche. C'est top secret, répondaient les conseillers du président. Et finalement, c'est le Washington Post, le journal qui avait révélé le scandale du Watergate, qui a eu le scoop, les premières photos de Beau avec le président dans la Maison-Blanche. Les chiens à la Maison-Blanche, c'est une histoire qui passionne les États-Unis. Harry Truman, un ancien président, avait dit « Si vous voulez un ami à Washington, prenez un chien ». Une phrase que visiblement n'a pas oublié Barack Obama.
Mais Obama n'a peut-être pas complètement oublié qu'il était de gauche en choisissant son chien, parce que c'est un chien offert par Edward Kennedy, le législateur idéal pour la gauche. Et c'est un chien auquel s'intéresse le Washington Post.
Oui, mais cette histoire de chien est intéressante. Dès que j'entendais l'enregistrement, ce qui me passe par l'esprit, c'est l'image de Lyndon Johnson au plus chaud de la guerre du Vietnam, qui tient son, il avait un beagle, je crois, il tenait son chien par les deux oreilles et il le soulève. Et du coup, ça veut dire quoi au juste? Ben, ça veut dire, c'est une des clés d'ailleurs de le succès de Trump. J'avais donné un entretien à un journal français récemment, et ça a été titré « La vulgarité de Trump est la clé de son authenticité pour les Américains. Donc ce n'est pas un président sachant qu'on veut, c'est un président authentique qu'on cherche.
Les faiblesses de la démocratie américaine liées au mécanisme des élections. Il y a 70% des Américains qui disent les mid-terms, c'est très intéressant là cette année. Mais il y a moins de 50% de participation. Ça veut dire qu'il y a un problème d'inscription sur les listes électorales ?
Il y a plusieurs problèmes d'inscription, et enfin inscription, puis circonscription, puis...
Découpage des circonscriptions.
Découpage, exactement. Et en un mot... je reviens un instant là-dessus, sur le vote d'il y a quelques jours. Il pleuvait sur tout le côté est. Et les commentateurs sur le champ disent « Ah, c'est favorable aux républicains ». Pourquoi ? C'est que si, d'après tous les sondages, etc., si tout le monde, s'il y a une grande partie du monde votait, du coup, ce serait les démocrates qui passent. Depuis 2010, depuis que les républicains ont pris et la Chambre, et le Sénat, et les gouverneurs dans les États fédéraux, il y a eu des efforts systémiques par ce parti de réduire la participation, et surtout, d'ailleurs, une des victoires du côté démocrate dans les élections de cette semaine se situait en Floride, où un référendum a accepté de redonner aux anciens prisonniers qui avaient fait leur sentence, qui ont fait leur temps, leur a donné le droit de voter. Et ils étaient en Floride, à peu près 20 millions d'habitants, 1 400 000 jeunes, plus ou moins jeunes, pour la plupart afro-américaines, qui ne pouvaient pas voter.
Alors, je vous vois venir sur mon terrain, vous intéressez donc au temps qu'il fait. D'ailleurs, vous notez dans votre livre que les politiques sont souvent mises en relation dans l'esprit des électeurs avec les catastrophes naturelles qui peuvent se produire. 10 ou 20% d'informés, deux fois plus de non-informés, et on préjuge que la catégorie restante, ce sont des gens qui n'ont pas de connaissances extrêmement précises, mais comme une intuition, quelque chose de raisonné sans qu'on soit informé. Je voulais vous faire raconter une histoire à laquelle indirectement vous êtes mêlé, que vous citez dans votre livre. Nous sommes au moment de la campagne entre le président Bush, le futur président Bush, et le candidat démocrate Dukakis. Vous parliez de prisonnier. Un homme meurtrier bénéficiait d'une sortie dont il a tiré parti pour violer et tuer une femme. Et voici que le candidat démocrate Dukakis s'est interrogé de manière virile par un journaliste.
The first question goes to Governor Dukakis. You have 2 minutes to respond. Governor, if Kitty Dukakis were raped and murdered, would you favor an irrevocable death penalty for the killer?
No, I don't, Bernard, and I think you know that I've opposed the death penalty during all of my life. I don't see any evidence that it's a deterrent, and I think there are better and more effective ways to deal with violence.
On n'a pas traduit parce qu'on a la traduction quasi simultanée par vous, Dick Howard, on a compris le sens de la question pressante du journaliste. Alors, qu'est-ce qu'il répond, Dukakis ?
Ben justement, il se tient sur ses positions, il donne une réponse froide, logique et sans passion.
Ses principes.
Un homme de principe, exactement. Et on dit, et il y a plein d'évidence pour cela, on dit qu'il a perdu à ce moment-là l'élection.
Ce qui contredit ce que vous venez de dire sur le référendum de Floride.
Oui, mais ce qu'il y a aussi dans la démocratie, ce que vous avez oublié d'ailleurs, Jean Lebrun, c'est que la démocratie permet un processus de maturation. C'est que le débat, justement, n'est pas simplement pour établir des vérités, mais c'est pour apprendre à se comporter dans le monde, à interpréter plus
Je sais, vous êtes d'un optimisme indécrottable. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, L'Amérique des ombres. Au moment de l'élection d'Obama, je voyais la maturation avancer à grands pas. On était presque près de la finitude. Mais Trump a été élu. Aussi un écho de ses meetings où il utilise souvent ce morceau des Guns. Il pleut en novembre.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Petite méditation aujourd'hui sur la démocratie américaine avec un théoricien de la politique en la personne de Dick Howard. Alors là, après l'élection de Trump, vous êtes, vous l'avouez, comme décontenancé et vous cherchez des explications qui tiennent peut-être aux propositions que font des entrepreneurs de politique à l'électeur. Parce que dans la pêche aux électeurs, le choix de l'hameçon, c'est extrêmement important. On ne va pas nécessairement mettre en scène les débats auxquels penseraient spontanément les électeurs. Mais on peut avoir intérêt à scénariser des questions qui sont jugées porteuses par des entrepreneurs de haine.
Revenons à Dukakis et ce prisonnier en question, et à l'idée que la démocratie nous apprend à nous à connaître notre monde. Il se trouve justement que l'année passée, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce prisonnier.
Le meurtrier, l'assassin. Sur lequel était interrogé Dukakis.
Et il se trouve que, bon, il est en prison, et dans cette prison fédérale, mon fils se portait volontaire pour faire des cours. Et les prisonniers ont décidé qu'ils aimeraient voir qui était le père de leur jeune prof, mon fils. Et ils m'ont fait venir pour leur parler de la manière dont je suis passé, si vous voulez, du mouvement des droits civiques, du mouvement contre la guerre au Vietnam, jusqu'à rester toujours à gauche, mais à réfléchir, à intégrer la théorie politique dans mes réflexions. Et ce prisonnier, William Horton, je l'ai rencontré, c'est un bel homme, grand, droit, et évidemment, quand j'ai fait donc un cours avec ces prisonniers, j'étais impressionné par leur désir d'apprendre. Et d'une certaine façon, ce qui s'est passé par la suite, parce que vous parlez d'entrepreneurs de la haine, ben justement, il y a eu un passage que je décris dans le livre finalement, que j'ai découvert, dont je ne me rendais pas compte au début. Il y a eu un passage politique selon laquelle ou au travers duquel la politique qui opposait des adversaires, un peu comme le PSG et l'OM par exemple, en acceptant des règles, les règles qu'on dirait la forme républicaine, ces oppositions, ces adversaires sont devenus des ennemis l'un et l'autre. Et ça commence, je crois, justement avec cette affaire en question et avec la pub qui a été tirée de cela. Et nous sommes maintenant, je crois, dans une situation où les partis opposés se traitent les uns les autres comme ennemis. Et comme ennemis, du coup, il n'y a plus besoin d'avoir un chien.
Révélation pour vous, août 2017. Dans une ville de Caroline du Nord, il est question d'abattre la statue du chef des armées sudistes qui voulait défendre l'esclavage, le général Lee, manifestation identitaire contre manifestation. Une voiture folle conduite par un néo-nazi provoque la mort d'une personne et le président Trump dit « il y a du bon de chaque côté ». Et quelques jours plus tard, nous sommes dans le même état à Durham.
Caroline du Nord, destruction d'une statue.
Tearing down of the statue.
Cette statue d'un soldat confédéré a été construite par son arrière-grand-père en 1924. Des manifestants l'ont malmené le 15 août dernier.
I believe that!
I believe that!
I believe that we!
I believe that we!
I believe that we will!
I believe that we will!
I believe that we will!
Morgan, ça lui fait mal.
Ils appartiennent tous à une organisation communiste. Oui, communiste. Ils ne se sont jamais frottés à la réalité. Ils ont passé leur vie bien au chaud sur les bancs de l'école. Les gens sont en train de devenir tarés. Ils ne comprennent plus rien à rien.
Récit du Huffington Post. Donc, ce militant de la droite, allons-nous dire, considère comme communiste et comme taré ceux qui envisageraient la destruction de ces foutues statues.
Écoutez, c'est intéressant que cette statue ait été érigée en 1924. Il y a deux raisons qui sont frappantes. D'une part, nous qui sommes actuellement à la commémoration de la Grande Guerre, faut pas oublier que c'était Woodrow Wilson qui a amené les États-Unis dans cette guerre, tardivement, contre l'opposition de beaucoup d'Américains. Et il y avait une réaction américaine à cette implication dont on ne parle pas vraiment, et c'est que la renaissance du Ku Klux Klan, de l'organisation raciste, qui était entre 1924 et 1960, le mouvement des droits civiques, qui était, pour ainsi dire, dominant dans beaucoup de régions des États-Unis. Le nombre de gouverneurs, de législateurs qu'ils ont accumulés sont assez faramineuses. Mais d'autre part, pour ce qui est de cette guerre de sécession. Dès la fin de la guerre, il y en avait des apologètes qui faisaient tout pour expliquer que non, c'était pas une guerre pour maintenir l'esclavage, non, c'était pour les droits des États de se gouverner. C'était ce qu'on appelait la cause noble et les deux viennent ensemble, se trouvent ensemble dans ce fameux film, le premier grand film cinématographique de Griffith, qui s'appelle La naissance d'une nation, qui raconte la naissance du Klan.
Alors vous êtes
Et une chose encore, ce film a été projeté pour la première fois à la Maison Blanche, à la demande du président Wilson, qui était tout de même pas simplement le libérateur de l'Europe, mais qui était un raciste patenté.
Oui, il faut le dire, ça, de temps en temps, le 12 novembre 2018. Vous êtes bouleversé par cette affaire de Charlottesville. Et je vais vous montrer aux auditeurs que vous vous intéressez au foot autant qu'aux chiens. Ça a des répercussions jusque dans le monde du foot. Non, mais c'est intéressant de faire toujours la relation.
Oui, absolument. Et c'était pas directement Charlottesville tout de même. Parce que d'abord, Charlottesville, pour le dire en un mot, c'est là où apparaît la réclamation de pouvoir blanc. Et c'est là, pour moi, où moi qui pensais que les États-Unis, qui étaient optimistes, comme vous me l'attribuez cet optimisme, je pensais que l'Amérique s'était montrée mature, enfin, en élisant Barack Obama à la présidence, mais non. Et donc, pour revenir au football, justement...
Oui, qui est quand même notre sujet, avec les chiens.
Il y a un grand joueur de Los Angeles, un noir avec un grand afro, qui s'est mis à... avant tous les jeux, quand on entonne l'hymne national, qui se mettait à mettre son genou par terre pour symboliser les inégalités et les enfreintes du cadre républicain. Et du coup, la droite s'en est saisie, et surtout, dans la foulée de Charlottesville, Donald Trump s'en est saisi aussi.
Oui, mais dites-moi, Dick Howard, il faut peut-être partager les responsabilités. Parce que si cette polarisation se reconstitue, c'est que depuis 30, 40 ans, la question centrale est « qui suis-je ?». Et alors, puisque chacun est dans la quête de soi, il se retrouve dans le désir de sécurité, dans une communauté. Et si cette communauté est minorisée, il veut la défendre, et c'est son objectif premier. Les démocrates sont allés dans ce sens de l'évolution de la société, comme l'explique un essayiste qui a peut-être davantage de succès en France qu'aux États-Unis, qui s'appelle Marc Lilla, qui vient de publier un livre chez Stock, qu'on peut lire en parallèle de votre livre chez François Bourin, et qui ici commente, il y a 2 ans, la défaite d'Hillary Clinton.
À chaque étape de la campagne, Hillary Clinton a commencé ses discours en disant bonjour, noir, latino, LGBT, etc. Mais ça, c'est une expression de reconnaissance, plutôt que d'avoir un message qui parle à tout le monde. Et c'est en fait, à mon avis, l'omniprésence du discours de l'identité qui a incité les Américains blancs, provinciaux, croyants, à se concevoir comme un groupe défavorisé. Ça, c'est nouveau. Donc, il y a une relation entre l'identitarisme diversitisme à gauche et cette réaction.
Ah, Dick Howard, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, je pense d'abord que Marc Lilla n'a pas eu la même expérience de vie que moi et une certaine génération d'Américaines ont partagé, à savoir d'où vient cette idée identitaire. Au moment du mouvement des droits civiques, nous sommes 1966 pour être précis, il y a donc un mouvement unifié, et puis à un moment, les Noirs, les participants noirs, nous disent, mais écoutez, quoi que vous fassiez, quelles que soient vos intentions, il y a toujours un reste de paternalisme, il faut qu'on s'en sépare. C'est le Black Power qui va naître. Ensuite, très peu après, les femmes commencent à nous raconter la même chose. Et c'est à partir de là que cette idée identitaire est née à gauche. Et d'ailleurs, le mot politiquement correct est aussi né à cette époque, non pas pour critiquer, mais au contraire, pour nous prévenir qu'on était peut-être trop sympathique avec ces gens, qu'on ne devait pas tout accepter. Puis advient Marc Lilla, qui a une toute autre expérience, qui vient de la droite. Il a été
non, mais d'accord.
Droite.
Mais est-ce qu'il n'a pas raison en disant qu'il faut
non.
des politiques qui ne soient pas expressives, l'expression d'une communauté, écoutez, mais persuasives non. à destination de toute la société?
C'est vous qui parlez tout le temps de la démocratie, de l'indétermination, etc. La position de Lilla présuppose qu'il y a une Amérique, une classe ouvrière, une bonne politique. Et je n'y crois pas du tout. Je crois justement qu'il faut passer par des rapports d'adversaires, qu'il faut justement, et c'est peut-être comme on vient à la fin de l'émission, il faudrait non pas critiquer Donald Trump, par exemple, comme antidémocrate, mais comme celui qui met en danger le cadre de la République, ce cadre qui justement permet d'aérer toutes ces différences, de discuter, débattre et critiquer fermement.
Et un exemple à l'appui pourrait être celui des nominations à la Cour suprême et des positions du juge qui vient d'être nommé. Juste un mot à son sujet ?
L'erreur était une erreur du côté démocrate, d'une part, de faire des émeutes, pour ainsi dire, se permettre d'être critiqué pour cela. Et d'autre part, le juge en question est un juge archipolitique qui prétendait justement admirer la neutralité de la Cour, et on craint qu'il n'en ait rien.
Merci à vous, Dick Howard. Votre livre « Les ombres de l'Amérique » de Kennedy à Trump, c'est aux éditions François Bourin. Chez vous, Mathieu Vidard, je salue d'abord Paul Percheron, Valérie Aistaray, Franck Olivard et Lincoln Eculesco qui ont préparé cette émission. Chez vous, Mathieu Vidard.
Bien, voilà, nous y sommes. Jean, dans un instant, ce sera la dernière émission consacrée au changement dans les unités de mesure. C'est la révolution dans ce domaine en ce moment.
Et bien, du coup, on est arrivé à 14 heures pile.